Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Secret maçonnique ou vérité catholique, invité Serge Abad de Gaillardeau, c'est votre sixième ouvrage, Serge, et bonjour.
Bonjour Nathalie, effectivement c'est mon sixième ouvrage.
Alors un ouvrage que l'on peut donc se procurer aux éditions Artege, hein, de nombreux chapitres pour finalement connaître tous ces secrets et ces rituels au sein de ce mouvement maçonnique.
Oui, alors la maçonnerie se présente comme une association philosophique. C'est un terme qui me paraît un petit peu aventureux, puisque ça n'est pas vraiment une école de philosophie. Mais
une
oui,
école
de magie, c'est un mouvement. C'est
une école
mouvement.
De magie.
Il y a de ça, il y a de ça. Je ne suis pas le seul à le dire. Je cite un grand maître d'une obédience qui parle de magie dans les rituels. Il y a effectivement des aspects magiques à ce rituel.
Alors on a beaucoup d'informations aussi à donner et que vous oui. allez donner. Je reviens sur l'entretien d'hier où vous oui. avez évoqué très vite les Illuminati, les francs-maçons et les Rose-Croix. Alors quelle différence entre des francs-maçons, des Illuminati et puis des Rose-Croix en quelques mots.
Alors très, très rapidement, parce que c'est un thème un peu complexe. Pour trouver la réponse à votre question, en fait, il faut s'intéresser aux origines de la franc-maçonnerie. Ces origines sont volontairement occultées, ce qui est normal de la part d'une société occulte, par la franc-maçonnerie elle-même. Roger Daché, qui est un historien reconnu de la franc-maçonnerie et, je dirais, compétent, si je peux me permettre de l'estimer, dit lui-même, savoir si nous connaîtrons les origines de la franc-maçonnerie est une question sans réponse. Bon, pas tout à fait de cet avis, mais il n'a pas tort dans la mesure où la franc-maçonnerie elle-même dissimule ses origines. Et elle les dissimule derrière une série de légendes, les templiers, les constructeurs de cathédrales, les constructeurs de pyramides, etc. Tout ça est absolument faux. En tout cas, c'est faux dans le sens d'une lignée directe. C'est-à-dire qu'il y a deux thèses parmi les historiens de la franc-maçonnerie, celle de la transmission directe, depuis les cathédrales, etc., depuis les pyramides, et la thèse de l'emprunt, selon laquelle la franc-maçonnerie aurait pillé ou emprunté à droite à gauche, dans différents courants ésotériques, religieux, un certain nombre de symboles. Eh bien, moi, c'est celle que je voudrais privilégier, puisque aujourd'hui, il me semble que c'est la thèse qui domine. Et pour reprendre le thème des Illuminati et des Rose-Croix, il faut savoir que la franc-maçonnerie a été créée à une époque où foisonnaient certaines sociétés secrètes, comme celle des Illuminati de Bavière et des Rosicruciens, des Rose-Croix. Ces sociétés secrètes ont été expulsées, notamment de Bavière, et ont émigré pour certaines en Angleterre, pour d'autres aux États-Unis. Et c'est créé à partir de là ce qu'on a appelé la Royal Society, dont faisaient partie Newton, Elias H. Moll, Théophile des Aguliers, qui sont connus pour être des savants, mais qui sont surtout des alchimistes. Newton est beaucoup plus un alchimiste qu'un physicien. Et ce sont ces gens-là qui ont créé la franc-maçonnerie, en réalité, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bien entendu, il y a eu des confréries de compagnonnage au Moyen-Âge, de constructeurs de cathédrales, avec leur propre symbolisme, leur propre rituel, auquel la franc-maçonnerie a tenté d'emprunter certains aspects. Et par exemple, pour ce qui est des Rose-Croix, il faut savoir que même si la philosophie rosicrucienne n'est pas complètement identique à la philosophie maçonnique, eh bien, au 18e degré, il y a un grade qui s'appelle chevalier Rose-Croix. C'est-à-dire que le 18e degré s'appelle chevalier Rose-Croix.
Alors, en évoquant, et merci pour ces informations autour des Illuminati, des Rosicruciens et puis de cette franc-maçonnerie, une association de philosophie bien présente aujourd'hui et répandue dans le monde entier, y a-t-il un plan bien particulier de cette association philosophique avec la franc-maçonnerie ?
On me pose souvent la question de savoir s'il y a un gouvernement maçonnique qui donne des directives aux diverses loges, aux diverses obédiences, etc. Bon, c'est compliqué, je n'en ai pas fait partie, donc je ne peux pas en témoigner. Moi, je suis avant tout un témoin. Je ne suis ni historien, ni philosophe, mais je suis surtout un témoin. Et j'essaye de donner à comprendre à mes lecteurs et aux auditeurs de mes conférences ce qu'est la franc-maçonnerie. À mon sens, il n'y a pas... La maçonnerie n'est pas une pieuvre formée de tentacules qui serait orchestrée par une tête unique. Voilà. Cette tête unique me paraît être simplement une idéologie. Et les francs-maçons portent cette idéologie et elle se répand. On voit par exemple dans l'histoire de la franc-maçonnerie, les loges se créent d'abord à Londres en 1717, et ensuite essaimées en France, en Russie, en Italie, en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est que cet essaimage de la franc-maçonnerie va créer des courants idéologiques qui vont systématiquement aboutir à des révolutions. Ça n'est pas moi qui dis, encore une fois, je ne suis pas historien, je ne le démontre pas dans mes livres ni dans mes conférences, mais je dispose de certains ouvrages, et notamment d'une étude historique qui l'explique très bien. La franc-maçonnerie, de toute façon, est anti-monarchique. Je le démontre dans mon ouvrage sur le secret, puisque au 30e degré du chevalier Kadosh, il y a un symbolisme qui consiste à demander vengeance pour l'abolition de la royauté. C'est-à-dire que le crâne sur lequel est posée la couronne royale n'est pas qu'un symbole anodin. Il est clairement expliqué dans un ouvrage fort documenté d'une franc-maçonne qui est dans les plus hauts grades que la couronne représente le pouvoir temporel de la monarchie. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, partout où la franc-maçonnerie s'est installée, finalement, les monarchies ont succombé. Donc, cet ensemble de signes ou de cet ensemble factuel nous laisse quand même penser qu'il y a un lien entre cette installation de la franc-maçonnerie, la propagation d'idéologie et le renversement de la monarchie. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de tête, mais il y a une idéologie. S'il y a une tête à la franc-maçonnerie, eh bien, c'est le petit groupe constitué à l'origine par Théophile des Aguliers, Newton, Ashmol, etc. Et je dirais, sur un plan plus surnaturel ou préternaturel, je pense que le maître de la franc-maçonnerie, je le démontre, je crois, par des écrits maçonniques eux-mêmes et par des extraits de rituels, c'est Lucifer. Là est l'ultime secret.
Donc, cette association philosophique mondiale aujourd'hui serait finalement au service, on fait court, en résumé, de Lucifer, ni plus ni moins
Incontestablement. Qui est Lucifer? Lucifer est l'ange qui, beau comme un dieu, a voulu prendre sa place et qui a chuté. Qui ensuite, sous la forme du serpent, a concouru à la chute de l'homme et de la femme. Qu'observe-t-on aujourd'hui dans les rituels maçonniques eux-mêmes et dans la philosophie de la franc-maçonnerie, dans la doctrine de la maçonnerie? Eh bien, là aussi, c'est expliqué à deux niveaux de la franc-maçonnerie, le grade de maître et le grade de chevalier Kadosh. Pour le rite écossais ancien accepté, bien sûr, il y a de nombreux rites, je l'explique.
Oui, vous l'expliquez.
En fait, le fond est le même.
Un livre à se procurer. Hein.
Voilà, oui. Le fond est le même. Eh bien, au grade de maître, il est dit dans le rituel, continuons à apporter à l'extérieur ce que nous avons appris dans le temple. Et au grade de Kadosh, 30e degré, il est dit, vous êtes aujourd'hui un combattant et vous devez porter les idées maçonniques dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle le symbole du chevalier Kadosh, du 30e degré, est un poignard. Le chevalier Kadosh est un combattant de la franc-maçonnerie. C'est encore beaucoup plus explicite au 32e degré, où on explique « vous êtes aujourd'hui le chef d'une armée ».
J'allais y venir, parce que vous parlez de combattants quand on combat. On est sur un champ de bataille qui est miné et on combat l'ennemi.
On combat l'ennemi.
Dans cette association philosophique que vous présentez et ce secret maçonnique, l'ennemi, c'est l'Église catholique.
C'est l'Église catholique et la société telle qu'elle est constituée et organisée à partir de la morale catholique.
Au fond, il y a cette doctrine maçonnique qui lutte, qui veut détruire la doctrine de l'Église catholique.
Exactement,
pour faire court
exactement,
pour nos auditeurs.
Nous avons deux systèmes qui sont totalement opposés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien grand maître de la Grande Loge de France qui dit « les deux systèmes sont antinomiques, il faut bien qu'un ou l'autre disparaisse ». C'est une citation que je fais, je crois, sur, dans le livre sur Lucifer et la franc-maçonnerie. Donc indéniablement, et donc, je le démontre dans le livre sur le secret.
Permettez-moi, mais on est en guerre ?
On est en guerre. Enfin, nous, non, nous ne sommes pas en guerre. Je crois que la franc-maçonnerie est en guerre contre l'Église, c'est différent.
Serge Abed Gaillardot, auteur de ce sixième ouvrage, un ouvrage que l'on peut se procurer en cette période aussi du monde, intitulé « Secret maçonnique ou vérité catholique » paru aux éditions Artege, pour au fond presque tout connaître des secrets de la maçonnerie. Merci et à demain.